France Info.
En compagnie ce soir de Béatrice Mathieu, l'Express, Franck de Dieu, Marianne, Véronique Reissoul de Backbone Consulting, et on accueille Jean-Marie Serroni, l'agro-économiste indépendant, membre de l'Académie d'agriculture. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
On a deux experts sur ce sujet, on a vous et puis on a Franck de Dieu à côté de vous, économiste.
Moi ça m'intéresse d'avoir une idée là-dessus, mais je suis pas du tout expert.
Soyez pas modeste, Franck de Dieu. Alors, des prix planchers pour les agriculteurs, en clair un revenu garanti, l'équivalent de 2 SMIC, nous dit-on. Rien ne dit que l'idée survivra au passage du Sénat, mais c'est passé en tout cas hier soir à l'Assemblée, dans une sorte de coup de théâtre, texte présenté par les écologistes, soutenu, voté par la gauche, contre l'avis de la Macronie, en l'absence des LR et avec un RN qui s'abstient. C'est un coup politique pour vous ou une réelle réponse aux questions de revenus des agriculteurs? Je vous laisse réfléchir, mais on va écouter. Non, je vous laisse répondre peut-être avant d'écouter Sandra Regol. Jean-Marie Serroni.
Pour moi, c'est un double coup politique. D'une part, le fait de faire passer un texte de loi que LFI avait essayé de faire passer au mois de novembre, je crois, l'année dernière, et le premier article de leur loi dans leur niche parlementaire, qui était les prix planchers, avait été assez largement adopté, et ensuite, quand l'ensemble de la loi avait été passée, elle avait été retoquée, mais il y avait à l'époque 330 députés dans l'Assemblée. C'est-à-dire qu'entre le premier élément et quand ils ont fait le vote final, la Macronie s'était mobilisée, ils avaient rassemblé tous les députés qu'ils pouvaient trouver pour venir voter. Là, hier, ils étaient 150, et donc les LR sont partis, ou il y avait qu'un ou deux, je crois, puis ils sont partis, ils n'ont pas pris part au vote. Le Rassemblement National s'est abstenu, alors que dans le vote sur la même chose, ils avaient voté ils avaient voté pour ou contre.
Ils sont pour depuis 10 ans, et on en parle.
Voilà, ils avaient voté pour. Donc là, c'est un coup, parce que ça peut pas prospérer, je crois pas. Alors, par contre, ça peut faire prospérer l'idée. Mais le vecteur parlementaire, je crois, ne peut pas aboutir. Et c'est un deuxième coup politique, parce qu'au salon de l'agriculture, rappelons-nous, le président de la République, dans le fameux samedi, là, quand il était acculé un peu par tous les bouts, avait dit, on va proposer des prix planchers. Et moi, je n'y étais pas, mais j'ai vu la vidéo. Le ministre de l'Agriculture, qui était à côté, se décomposait au fur et à mesure des propos du président.
Alors, vous dites Emmanuel Macron, mais il n'y a pas que lui. Écoutez Sandra Regol, qui fait un petit récapitulatif de tout ça. Donc, chez les écologistes, Sandra Regol, qui était l'invitée de Frédéric Carbone ce matin, ce midi, sur France Info.
Non seulement Emmanuel Macron, mais Agnès Pannier-Runacher elle-même avait donné la définition de ce que sont ces prix planchers. Mais c'est pas les seuls. Même Éric Ciotti avait dit il faut assurer un minimum d'un salaire de 1 500 € à chaque agriculteur. Alors là, vous voyez, il part encore plus loin. Il est carrément sur des subventions, enfin des espèces d'aides à donner à chaque producteur, productrice. Bref. Tout le monde y allait de sa proposition. Le seul problème, c'est qu'au moment où on dit « voilà un dispositif, est-ce qu'on pourrait travailler ensemble ?» pour tomber d'accord, et ben tout le monde avait poney piscine.
Vous avez bien entendu. Avant de poursuivre sur ces aspects politiques, faut qu'on explique à nos auditeurs comment ça pourrait marcher, Jean-Marie Serroni. Comment on fixe ce prix plancher? Comment on fixe le coût de production? Il y a tellement de variabilité de saison, de maturité pour les fruits, par exemple.
Ça pose déjà une première question. Votre interlocutrice parlait de subventions. En cas d'espèce, c'est absolument pas des subventions.
Elle évoquait la piste envisagée par Éric Ciotti.
Deuxième chose, on confond prix et revenu. Assurer un revenu et garantir un prix, c'est pas là du tout la même chose. Donc là, on parle de prix.
Alors on est sur le prix, on viendra au revenu après.
On est sur le prix. Donc je vais vous expliquer pourquoi, dans l'état actuel, ça peut pas marcher.
C'est clair.
Parce que on a connu ça il y a 30 ans. J'ai une longue expérience. À l'époque, j'étais sur le terrain. Avec la politique agricole commune, ancienne version. Les prix étaient, il y avait des prix objectifs. C'est pas vraiment des prix planchers. Mais des prix objectifs qui étaient déterminés tous les ans à Bruxelles. Ce qu'on appelait les marathons, où ils y passaient des nuits à s'engueuler, les ministres, etc. Tu me montes la banane, je te baisse le lait. Enfin bon, il y a des tractations. Et ça donnait un prix auquel les agriculteurs étaient à peu près, pouvaient être payés. Mais, on avait à l'époque des barrières aux frontières où il y avait des taxes à l'importation correspondant à ce prix qui était fixé et des exportateurs qui voulaient vendre sur le marché mondial ces prix intérieurs européens étant en général plus élevés que le marché mondial, touchaient des subventions pour exporter. Donc, s'il n'y a pas de protection aux frontières, et quand on discute, j'ai discuté beaucoup avec Aurélie Trouvé, la députée LFI qui est à l'origine de la première loi, elle me dit « mais oui ». On se connaît parce qu'elle était à l'académie. Elle me dit, mais oui, t'as raison. Ça ne peut pas marcher si on ne remet pas des protections aux frontières ou si on ne rehausse pas les éléments de protection qui restent, parce qu'il reste quand même des droits de douane. On pourrait les rehausser, mais ce serait quasiment impossible au niveau européen. Et puis, le troisième élément qu'il y avait à l'époque, c'est que la puissance publique intervenait sur les marchés. Quand les prix étaient trop bas, elle achetait pour faire monter les prix. Et on avait des stocks.
On avait des surplus, c'est-à-dire qu'il y a quand même une.
Voilà, on avait des stocks de lait, des stocks de beurre, des stocks de viande. Et quand les prix étaient au-dessus de ces prix, l'État empêchait que ces prix montent en revendant. Et ce qui est bien que les agriculteurs n'avaient plus du tout de signaux du marché pour guider leur choix, puisque les prix étaient garantis. Et qu'est-ce que ça faisait? Eh ben, ils allaient là où ça gagnait de l'argent, indépendamment des débouchés. Et ça fait ce que vous dites, des surplus de beurre qu'on vendait ou qu'on donnait aux Russes en fin d'année. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est peut-être pas une mauvaise idée, on peut peut-être en revenir dans certains cas, mais on peut pas le mettre comme ça sans qu'il y ait des protections aux frontières. Et aujourd'hui, il n'est pas véritablement dans l'idée de mettre des protections aux frontières, d'autant que nous sommes des grands exportateurs.
Voilà, c'est ça. Bon, est-ce que ça veut dire aussi peut-être qu'il faut que ça se pense à un niveau plus large, éventuellement européen? On va continuer à se poser toutes ces questions.
20h, 21h, France Info, les informés, Bérangère Bonte.
On est avec Béatrice Mathieu à l'Express. Tout le monde est en grande conversation sur ces prix planchers. Franck Dedieu est là pour Marianne, Véronique Reissoul pour Backbone Consulting et l'agro-économiste Jean-Marie Céroni. Véronique Reissoul, sur les réseaux sociaux, dites-nous en deux mots, est-ce que quelqu'un y comprend quelque chose à ces prix planchers?
En deux mots, il y a toujours le soutien aux agriculteurs, mais globalement, ces notions de prix plancher, de revenu minimum, et aussi il y a la notion de réciprocité et d'import qui vient se... Voilà, dans les conversations, donc les Français ont besoin des informés.
C'est-à-dire, on parle de vos conseils. Revenu, ça, c'est
le revenu minimum, ça, c'est un sujet sur lequel tout le monde est d'accord, mais la complexité de la compréhension sur comment est-ce que ça se joue avec les prix planchers, comment est-ce qu'on fait à l'import, comment est-ce qu'on fait pour protéger les frontières, on voit bien que les conversations, là, les Français cherchent un peu à comprendre où les politiques veulent aller.
On a bien compris avec Jean-Marie Céroni que pour vous, c'est pas faisable.
Dans l'État, c'est pas faisable. Avec en plus dans la proposition là de cette nuit, il y a le fait que s'ils se mettent pas d'accord, c'est l'État qui fixe le prix.
Conférence publique de filière.
Oui, mais et si ça marche pas?
Et si ça marche pas, c'est l'État derrière, ministère de l'économie et de l'agriculture.
Mais on va pas rentrer dans des prix administrés et ils se mettront jamais d'accord. Dès que ce sera un peu compliqué, ils se mettront jamais d'accord en attendant l'État. Et c'est pas l'État qui va fixer les prix.
Tous les 4 mois, c'est-à-dire qu'en plus,
tous les quatre mois,
en fonction de l'évolution des coûts de production, les prix planchers. Voilà. C'est-à-dire, c'est typique l'idée d'une bonne idée où on dit ah là, ces pauvres agriculteurs. Évidemment, beaucoup d'entre eux ont des revenus assez faibles et on est en train de mettre une usine à gaz qui effectivement ne marchera absolument pas parce que le fonctionnement.
Alors, est-ce que ça veut dire que si on veut essayer de régler cette question des revenus, ça se joue à nouveau, on revient aux marges. En fait, c'est ça. Il y a un prix et après il y a le prix plancher, le prix lui-même. Est-ce qu'on peut faire quelque chose, Franck Dedieu?
Moi, je crois, j'ai pas peur de la notion de prix administré. On a eu des prix administrés, ça a été, et on n'était pas en Union soviétique. Faut arrêter de croire que parce que tout n'est pas lié à l'offre et la demande dans des produits qui touchent à l'intérêt général, à l'intérêt national et à la souveraineté alimentaire, il peut y avoir des prix administrés.
Donc vous dites tous les produits de base,
Après, je ne vais pas vous faire la liste.
Essayons.
Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas pour moi quelque chose qui est rédhibitoire. D'accord. En revanche, là où je suis d'accord avec M. Céroni, c'est qu'il y a une forme de trou dans la raquette dans cette histoire. C'est-à-dire que vous partez d'une bonne intention. Effectivement, vous avez raison, Véronique, les gens ont du mal à comprendre la définition de revenu, de coût, de revient d'un produit agricole. En revanche, ce qu'ils ont bien compris, c'est que dans la chaîne, l'agriculteur, l'industrie agroalimentaire et la grande distribution, celui qui se fait avoir, c'est l'agriculteur. Et donc, celui qu'il faut protéger, c'est l'agriculteur, bien sûr. Et évidemment, le consommateur qui surpaye des marges qui sont injustement réparties.
Oui, mais le consommateur, ce qu'il a bien compris aussi, c'est quand il va au supermarché, et qu'il a choisi entre des fraises espagnoles qui sont deux fois moins chères que des fraises françaises, il prend des fraises espagnoles.
Et encore, les fraises, ça va parce qu'il y a une différence de goût.
Des cerises.
Vous prenez le concombre, il n'y a aucune différence de goût. Vous achetez des fraises françaises, en général, elles sont quand même meilleures.
Donc,
en fait, attendez, pas tout le monde en même temps.
Si je dis qu'il y a un trou dans la raquette, c'est pas pour dire que cette proposition est merveilleuse, c'est que cette question-là, vous avez tout à fait raison, pour dire qu'il y a une différence de prix. Cette question-là, elle pose finalement une question systémique économique. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut garantir des prix, des marges, des revenus dans un cadre qui est ouvert aux quatre vents de la concurrence? Et là, effectivement, il y a un problème. Pourquoi? Parce que vous aurez une augmentation des importations. Vous avez de l'agroalimentaire.
Ça n'est pas ouvert aux quatre vents de la concurrence, c'est ouvert à l'Union européenne.
Qui va acheter des produits venant d'ailleurs. Vous avez le poulet polonais qui est deux fois moins cher que le poulet à Rungis. Donc, à partir de là,
On va laisser réagir Jean-Marie Serroni.
Je termine simplement. À partir de là, à partir du moment où vous dites il y a des bonnes intentions, il y a une nécessité politique et, je dirais, humaine, de garantir des prix planchers. Mais nous sommes dans un cadre économique qui ne le permet pas, et bien à ce moment-là, prenons des décisions pour le permettre. Ça suppose, et là je vous rejoins, et bien tout simplement d'avoir des barrières douanières, de faire en sorte que quand vous importez un poulet du Brésil qui est trois fois moins cher qu'à Rungis, et bien vous avez des taxes de manière à ce qu'il y ait une incitation à choisir en priorité des poulets français.
Donc, voilà. Franck, vous voulez remettre en place des barrières douanières à l'intérieur de l'Union européenne?
Alors,
à l'intérieur de l'Union européenne?
J'ai parlé du Brésil. Du j'ai peut-être pas parlé
là,
du polonais.
Mais là, je vous parle des fraises, pas des fraises espagnoles.
Il y a une question qui se pose, effectivement, à partir du moment où vous avez des concurrences intra-européennes sur des bases d'exploitation sociale, les fraises en Espagne, ça se passe quand même pas très bien sur le plan social. Il faut quand même l'avouer. Ça relève un peu de quelque chose qui est indigne. Bon, à partir du moment où vous avez de concurrence sociale au sein même de l'Union européenne, vous pouvez imaginer quelque chose qui, rattrape le coup. Alors, effectivement, ça suppose que le Parlement européen soit d'accord.
Réponse de Jean-Marie Serroni, parce que c'est la quadrature du cercle, effectivement.
Oui, c'est la quadrature du cercle. Il faut qu'on, et je pense qu'on va y arriver au niveau européen. Ce que vous évoquez là, c'est les clauses miroirs que les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire que ce qui est interdit chez nous, on n'accepte pas d'acheter, d'importer des produits qui utilisent ces techniques interdites. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc ça, c'est quand même un élément central. Mais là où on se trompe, c'est qu'on imagine que les agriculteurs ne vivent pas bien. Mais c'est faux. C'est faux.
Alors, les agriculteurs, parce que ça n'a pas beaucoup de sens,
moyenne,
il y en a certains qui vivent vraiment pas bien, on est d'accord.
Le prélèvement moyen d'un agriculteur en France, par personne, c'est 22, 23 000 euros. Donc, c'est pas faramineux, c'est du net. C'est quand même, c'est pas la misère. Le gros problème qu'on a...
C'est une immense disparité, d'accord.
Le gros problème qu'on a, c'est qu'on a d'énormes disparités dans chacune des productions. Évidemment, un producteur de vin haut de gamme gagne plus qu'un producteur de mouton, c'est clair. Mais les écarts, et je suis bien chaud parce que j'ai fait une conférence là-dessus ce matin, vous prenez vous enlevez les 25% qui gagnent le plus, les 25% qui gagnent le moins, donc ça fait la moitié, vous avez des coûts de production, des coûts de revient, intégrant le travail, ce qu'on évoque avec les prix planchers, qui varient entre 1 à 3 à 1 à 4 entre les productions. Donc, si vous mettez un prix plancher relativement élevé pour que les trois quarts des gens s'en sortent, vous créez une rente de situation phénoménale pour un quart ou 30% des agriculteurs. Et donc, ils vont baisser en compétitivité. Donc, cette notion, le problème qu'on a, c'est ces écarts de production. Et du reste, dans les manifestations passées les émois médiatiques des premiers jours, vous êtes rendu compte que la question du revenu n'était pas central dans les débats. C'est du reste pour ça que j'étais souvent invité, j'étais le premier à le dire. C'était pas le problème est beaucoup plus grave que ça. C'est les conditions de production, c'est la reconnaissance par la société. Et on doit accompagner davantage les agriculteurs, notamment ceux qui ont des difficultés techniques, parce que le métier est plus difficile qu'avant. Mais globalement, la moyenne, et notamment depuis qu'on n'a plus les prix administrés, le revenu moyen des agriculteurs augmente régulièrement, avec des variations d'une année à l'autre, parce qu'il n'y a plus la sécurité de l'État. Mais globalement, ils vivent mieux qu'il y a 20 ans. Il n'y a aucune discussion quand on regarde les chiffres.
20h, 21h, France Info, les informés. Bérangère Bonte.
En compagnie ce soir de Franck Dedieu, de Marianne, Béatrice Mathieu de l'Express, Véronique Reissoult de Backbone Consulting et l'agroéconomiste Jean-Marie Serroni. Béatrice Mathieu, notamment sur cette question que je posais juste avant l'interruption, là, c'est intéressant d'essayer de comprendre pourquoi ils avaient tous poney et piscine, comme dit Sandra Regol. Tout le monde était plus ou moins d'accord. Et puis, c'est quoi? C'est la complexité? C'est la trouille du lobbying des syndicats type FNSEA? C'est quoi?
Je pense que d'une part, ils n'étaient pas tous d'accord. Je pense que c'est un camouflé pour le président de la République qui s'était avancé. Et on a bien vu que après cette avancée au salon de l'agriculture, toutes les choses se sont effilochées. Et là où ça a été très bien dit, c'est-à-dire que une grande partie de la classe politique sait très bien, parce qu'on leur a quand même suffisamment expliqué, que, et là où Franck a raison, c'est-à-dire que si on fait les prix planchers sans changer totalement le système, ça ne marche pas, c'est inopérant et c'est juste du blabla politique, un brin populiste. Donc, cette loi aura un avenir assez sombre parce que c'est totalement inapplicable. Et il y a deux solutions aujourd'hui. Soit on change totalement le système, mais c'est une remise en cause totalement totale du fonctionnement de l'Union européenne.
Et ça a peu de chance de.
Je sais pas si on
d'arriver.
Dit quand Franck disait effectivement si en reprenant le cas des fraises espagnoles, on trouvera des solutions pour. C'est quoi ces solutions complètes si on ne met pas de barrière douanière aux frontières de l'Europe?
Avant on avait quand même un truc qui s'appelait la dévaluation. Donc
non,
vous avez l'Espagne qui vous évalue. Aujourd'hui, c'est pas possible. C'est pour ça que s'il n'y a pas la dévaluation, il y a la question des écluses sociales.
L'idée est qu'on remet en cause tout le système. Mais, c'est
pour l'agriculture,
entièrement.
L'agriculture, en vérité,
Et en réalité, tout le monde sait très bien que ça n'est pas possible.
Est-ce que il y a un cas particulier qui est celui du RN qui est très intéressant? Ça fait 10 ans que le Rassemblement national réclame ça, les prix planchers.
Oui, mais parce que c'est la solution
facile. Et Jordan
facile.
Bardella, au moment du salon de l'agriculture, a pris de court tout son parti pour être tout à fait clair en disant mais en fait finalement non plus. Comment ça s'explique ça?
Mais vraisemblablement, le Rassemblement national que je ne connais pas à part médiatiquement. Ils ont recruté quand même beaucoup, beaucoup de cadres et de technocrates, quelque part, dans leur depuis quelques années.
C'est-à-dire qu'ils ont compris, eux aussi, et qu'économiquement, c'est une quadrature du cercle, et qu'on ne peut pas prendre le problème par ce biais-là.
Et je pense déjà que si nous, Français, nous achetions en priorité des produits français, on parle de la fraise, donc là où il y a une différenciation évidente, il y a des produits sur lesquels il n'y a pas trop de différenciation, et faisons attention aussi aux effets de prix. Aujourd'hui, on a 9 millions de Français qui ont recours à l'aide alimentaire. Les prix alimentaires ont augmenté de 20% en 2 ans. Et en gros, si on compare aux autres pays européens, on est, d'après les statistiques d'Eurostat, on mange, ça nous revient 5 à 10% plus cher que nos voisins. On mange pas pareil.
Hein. Marianne, on a publié pour des exemples, par exemple, du chicon, hein,
des endives du Nord. Chicon, c'est chez moi aussi, mais on va dire endives, pour ceux qui nous disent.
Vous avez quand même, concrètement, des marges pour la grande distribution qui sont énormes. Donc, il y a quand même une capacité à pouvoir, même si vous augmentez le revenu de l'agriculteur, à ce que ça ne soit pas répercuté par les prix. Pour répondre à votre question, Bérangère, sur la question politique, c'est que vous avez un drame, une sorte de contradiction au sein de tous les partis politiques français qui ont l'exemple de l'accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande est de ce point de vue très intéressant, même passionnant. Vous avez tous les députés français, hormis ceux de Renew, c'est-à-dire les macronistes, ont voté contre l'accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. Et au sein de leur propre groupe, les LR au sein de PPE, ils avaient voté contre, PPE a voté pour. Les socialistes français ont voté contre, au nom de certaines formes de protectionnisme. Ils étaient à l'intérieur d'un groupe sociodémocrate européen qui ont voté pour. Les Verts, la même chose. Vous avez des Verts dites pastèques, un peu rouges, chez les Français, qui se retrouvent à l'intérieur de Verts scandinaves libéraux, qui, eux, sont favorables au libre-échange. Donc, effectivement, ils ont pris quand même un peu conscience que, je dirais, le prolongement politique de cette mesure allait se heurter au niveau européen à une forme d'impuissance, ou plutôt de minorité politique.
On va clore ce sujet parce que je voudrais qu'on ait le temps de parler du Rwanda et c'est passionnant. Merci beaucoup Jean-Marie Cerroni, on y reviendra forcément. Je rappelle, je vais donner le titre de votre livre, 2041, l'Odyssée paysanne pour la santé de l'homme et de la planète.
L'homme avec un grand H.
Absolument. Merci beaucoup d'être passé par les informés.